France Culture.
Et tout de suite, c'est le point sur l'information avec le journal de la rédaction, avec vous Mathieu Laurent.
Rebonjour Marie Laborie, bonjour à toutes et tous. Au sommaire de cette édition, la méthode Le Cornu. Sébastien Le Cornu, Premier ministre, à l'épreuve du vote solennel du budget de la Sécurité sociale attendu en soirée. Décryptage Stéphane Robert. La Cour des comptes qui dénonce, je cite, les résultats contrastés des politiques anticorruption en France, malgré l'existence d'un cadre juridique solide. Anne Fauquemberg nous détaillera le rapport des magistrats financiers. Les liens entre l'évolution des marchés et les usages des drogues illicites que nous examinerons avec notre invité Christian Benlagdar, professeur à l'Université de Lille. Dans l'actualité internationale, en Tchéquie, la désignation aujourd'hui au poste de Premier ministre d'Andrei Babiš, milliardaire trumpiste, anti-européen, anti-immigration, qui a promis de réduire le montant des aides fournies à l'Ukraine. Ses valeurs, ainsi que celles des partis de la coalition avec laquelle il va gouverner, par Nicolas Taillard. Nous serions en train de vivre les dernières heures de l'examen des deux volets du projet de loi de finances de la Sécurité sociale suivi du vote solennel de ce texte. Conditionnel de rigueur, car quantité de zones d'incertitude déjoue les mécanismes sophistiqués des simulateurs de majorité dont usent et abusent les conseillers ministériels et autres sherpas élyséens. Nous vous ferons grâce là de revenir chapelle par chapelle sur les positionnements des uns et les hésitations des autres pour se concentrer sur la méthode du Premier ministre. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Mathieu.
Ce que l'on peut dire Stéphane, dans un premier temps en tout cas, c'est qu'elle diffère, cette méthode, de celle de ses deux derniers prédécesseurs.
Oui, on peut même dire que la manière dont Sébastien Lecornu a conduit les discussions sur le budget de la Sécurité sociale constitue une rupture avec la manière de gouverner de ses prédécesseurs. Avant lui, Michel Barnier et François Bayrou ont tenté de mettre en œuvre une politique qui était pensée et décidée à Matignon, et ils se sont comportés comme s'ils disposaient des moyens d'imposer leur projet politique. Michel Barnier a dans un premier temps tenté de s'appuyer sur le Sénat, où la droite est majoritaire. 10 ministres de son gouvernement étaient des sénateurs. Puis il a cru pouvoir compter sur une non-censure du Rassemblement national à l'Assemblée, avant de se faire renverser. François Bayrou, lui, a réussi à faire adopter le budget 2025 en utilisant l'article 49.3 de la Constitution et en achetant la non-censure des députés socialistes, avec un conclave sur les retraites qui s'est soldé 3 mois plus tard par un échec. Les socialistes ont considéré après coup qu'ils avaient été bernés par l'ancien Premier ministre. Avec Sébastien Lecornu, c'est très différent. Celui-ci a entériné le fait qu'il n'avait pas de majorité pour faire adopter les lois de finances au Palais Bourbon. Il a donc, dans un premier temps, accédé à la demande des socialistes de suspendre la réforme des retraites, déclaré qu'il n'utiliserait pas le 49.3, puis laissé libre cours à la négociation pour les autres dispositions. Le résultat, c'est une remise en cause de tous les fondamentaux du macronisme, puisqu'il y a, entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, des hausses d'impôts, un effort demandé aux entreprises et une contribution des Français les plus riches. Le vote sur le PLFSS tout à l'heure entérinera donc le succès de cette méthode inédite ou bien son échec, l'issue du vote étant très incertaine. Si le projet de loi est adopté, ce sera une victoire incontestable pour le Premier ministre. S'il ne l'est pas, on ne voit pas bien vers quelle autre méthode pourrait se tourner le pouvoir exécutif.
Merci Stéphane Robert. Rappelons que le vote solennel de ce projet de loi est attendu en début de soirée. Au fil d'un rapport publié ce mardi, la Cour des comptes dissèque le manque de moyens chroniques des acteurs de la lutte contre la corruption, mais aussi le manque d'impulsion politique et l'absence de cohérence du dispositif. Un extrait, le temps d'une phrase qui claque. La corruption n'est que très peu valorisée dans les priorités ministérielles, peut-on lire dans ce texte. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Anne, que faut-il retenir de ce rapport?
Déjà quelques chiffres. En fonction des années, entre 0,5% et 1% des adultes déclarent avoir été victimes d'une tentative de corruption. Ça peut paraître peu, mais cela représente tous les ans plusieurs centaines de milliers de personnes. Les faits constatés par la police et la gendarmerie, bien qu'en hausse, restent peu nombreux, 934 en 2024, tout comme les condamnations prononcées par la justice pénale, de l'ordre de 350 en 2022. Des chiffres qui témoignent d'un manque de connaissance du phénomène qui nécessite de renforcer le dispositif de mesure et d'analyse, estime la Cour des comptes à l'attention notamment de l'Agence française anticorruption, l'AFA. Par ailleurs, 9 ans après la promulgation de la loi Sapin 2, les sages de la rue Cambon notent un certain retard du secteur public sur le secteur privé, explique Pierre Moscovici, premier président.
Petit à petit, avec la loi Sapin 2 en particulier, les entreprises se sont dotées de stratégies qu'on appelle les stratégies de compliance, qui sont quand même assez fortes, où on cartographie les risques, où on identifie de manière assez précise les domaines sur lesquels il faut agir. Et les grandes entreprises en particulier, aujourd'hui, dépensent des sommes importantes et mettent en place des procédures qui sont assez précises. Pour le secteur public, on n'a pas rien fait. Il y a des comités de déontologie, des référents déontologues, il y a des contrôles de la commande publique. La Cour des comptes, par exemple, s'est dotée de tout ça. Nous avons un comité de déontologie, nous veillons à la transparence de notre commande publique. Mais disons que c'est moins systématique. Et donc, on constate de facto un certain retard. C'est la raison pour laquelle nous proposons de renforcer les procédures dans le secteur public, de les systématiser les meilleures pratiques qui existent déjà.
La Cour des comptes demande à l'agence anticorruption de s'assurer du déploiement, par exemple, des dispositifs d'alerte interne obligatoires. Mais pour Pierre Moscovici, il faut surtout un portage politique fort. La France vient en effet seulement de se doter d'un nouveau plan de lutte contre la corruption pour la période 2025-2029. Ça date du mois dernier. Le pays ne disposait plus de feuille de route depuis 3 ans.
Merci Anne Fauquemberg. À 48 heures d'une audience décisive devant la Cour administrative d'appel de Toulouse, le rapporteur public magistrat, dont les avis sont généralement suivis, se prononce en faveur de la poursuite du chantier de l'autoroute A69, à savoir 53 km de grand ruban entre Toulouse et Castres. Les opposants à ce projet devenu un emblème national des luttes écologiques espèrent voir les juges de la Cour confirmer le jugement du tribunal administratif qui, le 27 février dernier, avait annulé l'autorisation environnementale accordée à ce vaste chantier. Renault et Ford annoncent avoir noué un partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires, avec pour commencer la production en France par Renault de 2 citadines électriques abordables pour la marque américaine, afin de contrer la concurrence chinoise.
Demain, quel lien entre l'évolution des marchés et les usages des drogues illicites? C'est la question que vous allez poser à votre invité, Mathieu.
Oui, il s'agit de Christian Benlagdar, professeur à l'Université de Lille, co-auteur avec Sophie Massin de l'étude « Taille des marchés et drogues illicites en France 2010-2023 » publiée hier par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, le FDT. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, un très bref tableau de données. Le marché a augmenté de 189% en chiffre d'affaires estimé en 12 ans pour un montant de 6,8 milliards d'euros. Et puis le marché de la cocaïne devant celui du cannabis. C'est la donnée d'ailleurs la plus commentée de votre étude. Est-ce que vous aussi, vous y voyez là une bascule symbolique? Comment vous l'interprétez, cette donnée?
Je l'interprète, cette donnée. Alors, avant de parler du détrônage de la cocaïne, du cannabis, sur ce 7 milliards d'euros, 6,8 milliards d'euros, qui représente quand même un chiffre assez conséquent, hein, économique. Sophie Massin, ma collègue, me disait il y a peu que c'est l'équivalent du PIB du Soudan, ou c'est encore l'équivalent d'un trimestre de chiffre d'affaires des micro-entrepreneurs français. Donc, on est quand même face à une masse d'argent, une envergure économique des organisations de revente de stupéfiants inédite et jamais vue en ce moment. Alors, le détrônage, effectivement, le fait que la cocaïne et que plus généralement les psychostimulants cocaïne, crack, ecstasy, MDMA et amphétamine soient passés devant le marché du cannabis traduit peut-être effectivement qu'on a de nouveaux consommateurs de cocaïne qui apparaissent, en tout cas qu'on a une offre de cocaïne qui n'a jamais été vue en France ni en Europe.
Et qu'est-ce qui tire cette expansion, selon vous? La diversification des contextes de consommation, par exemple?
Alors certainement, mais l'économiste que je suis vous dirait que c'est aussi la diminution du prix de vente. Le prix de vente au gramme de rue de cannabis, de cocaïne, pardon, a largement diminué ces dernières années. On s'attend encore à une baisse du prix en 2026, mais c'est aussi les stratégies marketing des organisations de revente qui, grâce à un packaging élaboré, eh bien, font que la cocaïne est accessible à tout le monde. Je pense tout particulièrement aux jeunes ou aux personnes peu argentées qui peuvent acheter de la cocaïne dans des pochons de 0,1, 0,2 grammes pour 10 euros.
Ça veut dire que la filière se structure et est aussi ventilée par des tuyaux, par des accès différents d'avant?
Alors, ça, c'est une grande question. Les portes d'entrée de la cocaïne en Europe sont dans les grands ports européens.
Ça reste les ports, ça reste le fluvial, semblerait-il, qui est le plus conséquent, non?
Oui, le maritime, ouais, le maritime, on a des saisies records qui sont faites dans les grands ports européens. Je pense à Hambourg en 2024 où on avait un tonnage de cocaïne complètement hallucinant. Mais aujourd'hui, effectivement, la cocaïne retrouve les réseaux de distribution du cannabis. Aujourd'hui, les implantations dans les villes de France font que on vend du cannabis et de la cocaïne conjointement, mais aussi sur les nouvelles organisations de revente de stupéfiants. Je pense à tout ce qui est revente en ligne, revente grâce au réseau numérique, où là, on va se faire livrer sa cocaïne ou ses psychostimulants ou encore ses nouveaux produits de synthèse avec une facilité déconcertante.
Christian Benlagdar, des produits de synthèse qui sont en très forte augmentation. On le lit aussi dans l'étude que vous co-signez avec Sophie Massin.
Oui, absolument. Alors, ecstasy, MDMA. Alors, est-ce que effectivement, c'était votre question, est-ce que ça traduit une diversification des contextes de consommation? Alors, en festif, en milieu festif, c'était déjà connu. Est-ce qu'on commence à plus consommer dans les milieux du travail? Je ne sais pas. Est-ce que les amphétamines sont de plus en plus utilisées dans nos salles de sport ou nos pratiques sportives à viser de performance? Peut-être. Tout ceci reste à documenter, même si effectivement l'Observatoire français des drogues et des conduites addictives commence à investiguer et investigue très bien ces phénomènes.
Justement, votre note pour le FDT a aussi une vocation méthodologique. Il s'agit de faire le point sur les données dont on dispose pour surveiller ces marchés illicites et l'importance de ces données. Mais dites-nous, comment vous avez construit ce chiffre? Il ne s'agit pas de données communiquées par des vendeurs de drogue comme dans d'autres secteurs économiques.
Non. Alors, évidemment,
c'est important, vous nous disiez.
On sait que les Oui, on cite les estimations centrales, mais effectivement, on devrait citer les fourchettes d'estimation. Par exemple, ce 6,8 milliards, il est compris entre 5 milliards et 10 milliards, donc fourchette assez large. Évidemment, on utilise un nombre d'hypothèses conséquents. Finalement, la méthodologie brute, c'est de se dire, grâce aux enquêtes en population générale sanitaire, style Santé publique France ou Europe de l'OFDT, eh bien, on voit le nombre de consommateurs, on a des informations sur leur intensité de consommation, sur les nombres de jours auxquels ils consomment, et finalement, on arrive à reconstruire une quantité consommée en France annuellement, comprise entre temps et temps, qu'on multiplie par un prix de vente de détail, prix de vente au détail qui est observé par les services policiers.
Bien, merci beaucoup. Merci Christian Benlagdar, professeur à l'Université de Lille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de l'étude que vous avez co-signée avec Sophie Massin, Taille des marchés et drogues illicites en France 2010-2023. Et merci à Loïse Guérin pour la préparation.
Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites.
Eh bien, ce sont ceux de l'épouse du président de la République qui, hier soir, assistait au spectacle de l'humoriste Harry Habitant aux Folies Bergères à Paris. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour Mathieu.
Tara, de quel propos s'agit-il?
Alors, ils ont fait le tour des réseaux. Brigitte Macron, en coulisses, vient voir l'acteur, il lui confie avoir peur, allusion à l'interruption la veille samedi de son spectacle par des militantes du collectif féministe Nous Toutes. Elles portaient des masques à l'effigie de l'acteur et elles ont scandé « Habitant violeur ». Voilà pour l'ambiance samedi. Le lendemain, donc, la première dame vient se faire photographier avec Harry Habitant. Deux caméras au moins sont là.
Alors, ça va, t'es comment?
J'ai peur.
T'as peur de quoi?
De tout.
Voilà, donc elle vient de dire, s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors.
Bah oui.
Surtout des bandits masqués.
Et ajoute surtout des bandits masqués. La qualification de sale conne, Mathieu, a immédiatement fait réagir. D'abord les militantes elles-mêmes, Claudia et Gwen, qui étaient dans l'action, se disent choquées, scandalisées. C'est un crachat de plus sur les victimes et les associations féministes. Judith Godrèche, l'actrice, Marie-Lise Léon, patronne de la CFDT, Marine Tondelier pour les écologistes, apportent leur soutien à ces collectifs. À l'opposé, le vice-président du RN, Sébastien Chenu, est choqué, lui, par le fait qu'on prenne des propos privés et qu'on en fasse une polémique. En tout cas, il y avait des caméras autour de Madame Macron.
Un mot maintenant, Tara, du fond de l'affaire. Harry Habitant a été effectivement accusé de viol, mais bénéficie d'un long-lieu.
Effectivement, en octobre 2021, la petite amie de l'acteur âgée de 23 ans l'accuse de lui avoir imposé une sodomie. Ils se fréquentent alors depuis 2 mois. Ce soir-là, elle porte plainte immédiatement en pleine nuit. Les médecins constatent des lésions, du sang est retrouvé, des messages envers des amis parlent aussi de viol. Les magistrates chargées du dossier reconnaissent reconnaissent l'état post-traumatique indéniable de la plaignante. Et pourtant, en juillet 2023, ces magistrates placent Harry Habitant sous le statut de témoin assisté. Puis, au printemps dernier, il a bénéficié d'un non-lieu. Finalement, les expertises psychologiques n'ont pas montré un homme violent. Ses petites amies parlent d'un partenaire respectueux. C'est donc cet homme qui ne fait plus l'objet de poursuites judiciaires que Mme Macron est venue rencontrer. De son côté, la première dame s'est plusieurs fois montrée sensible à la cause féministe. En novembre 2024, elle soutenait inconditionnellement toutes les femmes à propos du procès Mazan, disant qu'il est indispensable de se battre contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, il faut rappeler que l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat, avec un budget en hausse de 95% depuis 2017.
Merci à vous, Tara Schlegel.
Dans l'actualité internationale, le retour au pouvoir en Tchéquie d'Andrei Babiš.
Retour 2 mois après des élections législatives remportées par son parti fourre-tout Ano, qui signifie oui en tchèque. Andrei Babiš, entrepreneur, prétend avoir renoncé à son conglomérat agro-industriel et chimique qui l'aurait fait milliardaire. Enfin, fortuné, bonjour Nicolas Teilhard.
Bonjour.
Fortuné, pourquoi pas, comme Donald Trump.
Oui, c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux personnages. Plusieurs points communs, en plus d'un train de vie confortable, vous en parliez. Un évident flair pour l'air du temps et puis un penchant certain pour le populisme. Comptant parmi les plus grandes fortunes de République tchèque, Babiš a dû s'engager effectivement à transférer les activités de son empire pour gouverner. C'était la condition posée par le président tchèque pour le nommer afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Babiš arrivait en politique au début des années 2010, après la création du parti des citoyens mécontents et qui revient au pouvoir après un premier mandat, avec cette fois une coalition beaucoup plus marquée à droite, en quête d'alliés pour former une majorité. Babiš est allé piocher à l'extrême droite, pactisant avec des pro-russes du SPD et des anti-écologistes du parti des motoristes, deux formations aux dirigeants sulfureux qui flirtent volontiers avec le racisme, l'homophobie, voire la nostalgie du régime nazi. Plus opportuniste qu'idéologue, Babiš a puisé dans cette radicalité en vogue de quoi bâtir une coalition qui aura une ligne anti-immigration mais pro-charbon et pro-moteur thermique, ce qui est important dans un pays où le secteur automobile pèse très lourd.
Nicolas, de quoi inquiéter une partie des Européens et les Ukrainiens?
Oui, parce que le camp des eurosceptiques gagne encore du terrain et parce que Prague comptait jusqu'ici parmi les principaux soutiens de Kiev après Robert Fico en Slovaquie et Viktor Orban en Hongrie. Un axe beaucoup plus favorable à Moscou se développe clairement en Europe centrale. Pour autant, Babiš, dont les affaires sont très liées à l'Europe et qui est attendu au tournant dans les grandes capitales du continent, sera sans doute moins virulent à Bruxelles que dans son pays, une République tchèque très polarisée où des manifestations contre ce nouveau gouvernement ont déjà débuté.
Merci beaucoup Nicolas Teilhard. L'Europe, combien de divisions? Eh bien voilà qui ouvre une brèche d'envergure dans laquelle Moscou s'engouffre à l'envi, et cela date pas d'hier. Ce qui est nouveau, ce sont les propos de Vladimir Poutine qui fait de l'Europe l'adversaire de la Russie et les médias aux ordres du Kremlin de faire le nécessaire. C'est une correspondance de Moscou de Sylvain Tronchet.
Ce matin encore, les Européens sont la cible de quasiment tous les médias russes. Qualifiés de partie de la guerre par le journal du gouvernement, Rassiskaya Gazeta, accusés de faire dérailler le plan de paix de Donald Trump par les Izvestia, la publication de la nouvelle stratégie de sécurité américaine, qui ne considère plus la Russie comme une menace et met en garde les Européens, donne du baume au cœur aux tabloïds pro-Kremlin, Moskovski comme Somoletsky titre « Trump n'est plus leur papa ». Pour Moscou, l'ennemi est donc clairement identifié désormais, comme le disait il y a quelques jours à la télévision publique, le conseiller politique proche du Kremlin, très influent, Sergueï Karaganov.
Nous sommes en guerre avec l'Europe, pas avec l'Ukraine, misérable, pitoyable et manipulée. Cette guerre ne finira pas tant que nous n'aurons pas vaincu l'Europe, moralement et politiquement. Tant que les élites européennes dérangées poursuivront leur course folle vers une guerre globale, je ne pense pas qu'on puisse attendre une paix durable. Nous espérons qu'ils reviennent à la raison avant de nous forcer à commettre le terrible péché que serait l'utilisation d'armes de destruction massive.
Ce type de discours particulièrement menaçant devient la norme dans les médias russes aujourd'hui. Vladimir Poutine lui-même menaçait l'Europe de représailles nucléaires la semaine dernière en amont de sa rencontre avec Steve Witkoff. Ce discours, décrivant une Europe nazifiée pour mieux l'identifier à un ennemi connu, est aujourd'hui largement répandu en Russie. Les récentes prises de position américaines ne font que le renforcer.
Sylvain Tronchet à Moscou, la météo en quelques mots pour refermer ce journal. Ambiance anticyclonique, une fois dissipés les brouillards du long de la Garonne et du Val-de-Saône, entrée maritime tenace sur le pourtour méditerranéen, de faibles précipitations près des Cévennes et douceur des températures. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois à la technique Mineta Diawara.